L'on court avec un conteur qu'on ne se lasse absolument pas d'écouter. Maurice Efti, détendez-vous, calmez-vous, reposez-vous, débranchez le téléphone, on part en voyage.
Songez qu'il y a pratiquement 10 000 ans qu'il fait beau, qu'il y a du soleil, que vous êtes en plein désert, que vous êtes à quelques kilomètres du Pacifique, que vous êtes au Pérou et que vous marchez sur une piste précolombienne, que vous êtes au cœur de Nazca, le mystère peut-être le plus difficile à élucider de l'histoire archéologique de ces 50 dernières années. J'aime passionnément ce désert de Nazca, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez touchant. La première fois où je suis arrivé dans cette région, j'ai ressenti non seulement la magie de ce vide absolu, mais surtout cette incroyable étendue. Une étendue comme on en voit rarement, c'est-à-dire c'est un endroit non seulement sacré, mais un endroit où l'on pense à des choses étranges. On pense à la sécheresse, on pense à ces 10 000 ans où il ne pleut pas, ou si peu souvent, que ça n'est même pas vraiment dans la mémoire de certains hommes. En tout cas aujourd'hui, s'il a plu deux ou trois fois de façon importante dans ce siècle, c'est un maximum. Et pourtant, dans cette sécheresse, c'est à l'eau qu'on pense à Nazca. C'est vraiment à l'eau parce que, où est-elle ? Faites quelques kilomètres du côté du Pacifique. Admirez ce Pacifique. Une mer étale, froide, ce courant qui vient du sud, glacé, qui permet d'abord de créer du plancton, et puis à partir de là, des petits anchois, des petites sardines, des grosses baleines, et puis le cycle continue, les thons, vous êtes dans les eaux les plus poissonneuses du monde, et vous êtes, enfin, prenons un bateau. Traversons jusqu'aux îles Ballestas pour voir un peu comment fonctionne ce Pacifique. Nous avons pris le bus à Lima, nous avons fait 450 km pour aller jusque dans la région de Paracas, d'Ica, de Pisco, 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 c'est déjà un rêve, c'est déjà une boisson, c'est un alcool. C'est une vallée particulière où l'Espagnol a planté de la vigne, ce qui permet de créer ce mar qu'est le pisco, l'alcool national péruvien. Mais si je suis venu jusque-là, c'est pour vous emmener sur une presqu'île assez curieuse. La presqu'île de Paracas, c'est un endroit qui m'a fait rêver dès que je l'ai touché parce que c'est déjà un peu l'avant-goût de Nazca. À Paracas, il n'y a que du sable, il n'y a que des dunes énormes. Certaines dunes montent jusqu'à 100 ou 150 mètres de hauteur au bord de la mer. Et puis, ce sable jaune descend directement vers l'eau, cette eau glacée dont je vous parlais. Et à l'horizon, on aperçoit quelques petits îlots. Et ce qui est curieux, c'est que le premier regard que l'on a lorsqu'on est au bout de la presqu'île de Paracas, c'est pour ces îles qui sont en plein cœur du Pacifique, car elles sont blanches, elles sont curieusement laiteuses. Et ça vous intrigue déjà. Alors, vous partez en bateau, vous êtes dans la région protégée, vous vous rendez compte que le Pacifique n'est pas aussi calme qu'on le croit, et vous ramez, ou vous avez aujourd'hui votre moteur, et vous vous approchez de ces îles, et vous commencez à voir la chose la plus incroyable qui soit. Vous êtes parti d'un désert absolu, sans un seul animal, sans rien, et vous découvrez des milliers d'otaries, et des millions d'oiseaux. C'est-à-dire que ces îles qui sont blanches, elles sont en fait couvertes de guano. Le guano, bien sûr, c'est les excréments de tous ces volatiles, et ça a été la richesse du Pérou, mais pas seulement du Pérou du 19e siècle, car au 19e, ça a été une véritable fortune pour le Pérou, le guano. On a exploité cet engrais naturel comme de véritables mines. On a souvent enlevé une trentaine de mètres de hauteur de ce guano qui, parce qu'il ne pleut jamais, se conservait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une goutte d'eau pour nettoyer la roche. Donc il y a eu tout à coup des couches énormes de ce guano, et c'est un peu le miracle de l'endroit. Je dis miracle parce que s'il y a des oiseaux, c'est qu'il y a des poissons. S'il y a des poissons, je vous l'ai dit, c'est qu'il y a du plancton. C'est le mot vie qui vous intéresse. C'est cette débauche de vie. Je vais vous donner un seul exemple. Lorsque les archéologues, par hasard, ont été tenus au courant de ces exploitations du guano, ils ont su de temps à autre qu'un Indien qui exploitait comme une mine, je vous le dis, cet endroit avait retrouvé un bijou, avait retrouvé la tête de quelqu'un, avait retrouvé un corps entier, avait retrouvé d'autres bijoux, d'autres offrandes. C'était un endroit déjà sacré à l'époque précolombienne. Pourquoi ? Eh bien parce que dans les jardins incas, sur les terrasses incas, on utilisait déjà de l'engrais. On savait que le guano était quelque chose qui permettait la vie et qui permettait l'agriculture. Et on savait que si par hasard, le plancton s'arrêtait, les poissons s'arrêtaient, les oiseaux se mettaient à mourir au Pérou et que le guano n'existerait plus. Donc la mer, c'est vraiment la mer sur son sens le plus vital. L'homme qui pour la première fois s'est retrouvé le long de ces côtes désertiques a dû admirer énormément cette source, ce revenu absolu. Je ne parle pas seulement du guano, je parle de la nourriture naturellement, parce qu'avant d'être agriculteur, il a fallu être pêcheur, il a fallu être chasseur. Vous allez chercher vos œufs comme un cueilleur, comme quelqu'un qui recueille simplement la nourriture. C'est un exemple qui est important parce que lorsque vous revenez de ces îles, après ce paradis, cet Éden absolu, ces îles Galapagos en miniature, vous apercevez tout à coup la chose peut-être la plus incroyable de la côte. Un énorme chandelier, une chose qui a été gravée dans le sable, qui a été endurcie par... comment vous l'expliquez ? En fait, c'est le sable qui s'est cristallisé à cause du sel, à cause du côté marin, très certainement, et ces espèces de formes étranges qui montent comme un arbre de vie font plus de... Oui, je crois que ça arrive à 183 ou 185 mètres de hauteur. C'est incroyable. Et vous voyez ça depuis la mer, et vous sentez qu'on vous donne une direction, qu'on vous indique quelque chose. Il y a un grand rectangle en bas. Il y a la forme d'un trident avec des floraisons, des espèces de feuilles. Je l'ai vu 10 fois, 100 fois, cet endroit. Le vent a passé par là, les tempêtes de sable ont passé par là. L'homme, parfois, écrivait Pérou, écrivait quelque chose, son nom. 3 jours après, tout était effacé, sauf le chandelier. Ce chandelier incroyable reste gravé pour l'éternité, sur la plage, sur cette falaise inclinée, face aux îles magiques, ces îles de vie, ces îles qui donnent la vie.
Mama, 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 mama.
Sumac, ah, c'est la plus péruvienne des péruviennes, elle chante en quechua, c'est une langue déjà assez curieuse, elle parle de Pachamama, elle parle de l'agriculture, elle nous parle vraiment de ce côté vital de la terre qui permet la naissance d'une plante. Or c'est là que l'intérêt du désert commence. Comment faire pousser quelque chose dans le désert? Eh bien, en suivant un peu la voie de ce chandelier, si je vous ai amené à Paracas, c'est parce que c'est peut-être l'endroit le plus curieux, non pas endroit de vie, mais endroit de mort. C'est l'endroit où l'on a retrouvé les momies les plus extraordinaires du Pérou. Des emballages, des cocons, des formules d'emballage qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des tissus qui ont dû demander des années et des années de travail. C'est là que l'on a retrouvé des toiles qui font 30 mètres de longueur et qui emballent, comme si on voulait les protéger, ces momies, bien sûr, tout à fait dans leur forme fœtale, comme cela, ramassées sur elles-mêmes, et qui sont ensuite déposés dans les paniers, dans des bouteilles. Je dis des bouteilles parce que les tombes ont des formes de bouteilles, tout cela bien fermé avec juste un petit roseau qui effleure la surface du sable. Et c'est le miracle des archéologues de découvrir tout à coup une nécropole. Dans la plus incroyable des nécropoles de Paracas, je m'en rappelle, c'est un chiffre qui a tellement impressionné l'archéologue du moment, 429 momies, avec des tissus qui aujourd'hui sur un marché de l'art vaudraient pratiquement un million et demi. Je vous donne des chiffres aussi impressionnants en parlant de prix, de valeur de ces tissus, tout simplement parce que ces emballages sont d'une telle préciosité. Ce sont des brocarts, des travaux qui non seulement ont demandé des mois, comme je le disais, mais surtout ont une valeur symbolique étrange. On y retrouve un peu tout le bestiaire précolombien, on y retrouve également tous les symboles qui nous entourent. La vie, la mort, la végétation, les animaux, les baleines, les oiseaux, tout est réuni un peu sur ces motifs. Et puis à côté, il y a les céramiques. Alors, ça n'est pas encore Nazca, mais c'est déjà Nazca. Parce que maintenant que l'on suit un peu le fléchage de notre chandelier, ce chandelier incroyable qui était sur la plage, il faut à peu près 200 km pour arriver au cœur même de la pampa de Nazca. Mais on n'oublie plus la mer. Il est impossible d'oublier ce cheminement qui nous ramènerait vers la mer. Il suffirait de suivre une des petites vallées qui descend des Andes, celle du Rio Grande, celle du Rio Ingenio, toutes les petites rivières perdues, toutes les rivières souterraines qui sont aux alentours de Nazca nous ramèneraient au Pacifique. Alors il est impossible d'oublier ce côté de base. Et puis, involontairement, je vous situe ce désert. Involontairement, on pense aussi à l'eau, mais à l'eau douce. D'où vient-elle? Alors là, même si vous n'avez pas voyagé, même si vous n'êtes pas parti comme l'indigène, un jour, il y a des dizaines de milliers d'années, de l'Amazonie, vous repensez aux Andes, vous observez l'horizon et vous imaginez cette neige, ces sommets incroyables. Vous êtes encore à 400 ou 500 mètres d'altitude. Nous sommes maintenant à Nazca. Nous sommes dans cette vallée qui paraît encore un désert. Mais on devine, par la verdure qui est au fond du lit absolument sec de la rivière, on devine qu'il y a de l'eau, on devine qu'il y a une nappe phréatique et on sait que cette eau vient de la fonte des neiges. Tout cela, l'indigène le sent, l'a déduit, l'a étudié. Que va-t-on faire maintenant ? Ben, il faudra effectivement créer tout le modus autour de l'idée agricole. Et ça, Ça n'a qu'un terme, ça n'a qu'un mot, ça n'a qu'une solution, c'est irrigation. Et ça, c'est la magie du Pérou désertique. Décembre. Nous attendons l'eau. Nous attendons que les Andes nous offrent véritablement cette neige fondue. C'est la nouvelle saison. Bien sûr, nous sommes dans l'hémisphère sud. Mais si je parle de cela, c'est parce que pour planter le premier grain de maïs, le premier haricot, il a fallu comprendre le système de l'eau. Et puis, il a fallu surtout rêver à un autre monde, à une autre mer. J'en ai déjà parlé une fois. Je me rappelle être parti avec vous à la recherche des premiers Indiens de l'Amérique du Sud. Je me rappelle être parti d'Amazonie et petit à petit d'être remonté du côté de l'équateur avant de replonger sur la côte pacifique. Quand vous êtes à Nazca, dans cette caillasse, dans ce désert absolu, vous repensez aussi à l'Amazone. Vous pensez à cette verdure absolue qui se trouve de l'autre côté des Andes, celle qui vous fait ce cadeau de vous offrir cette eau magique, cette eau qui dépendra en même temps de tout ce qui sera vital, qui vous offrira tout ce qui est vital, mais qui surtout se cache plusieurs mois par année. Alors l'homme commence à creuser des tunnels sous la vallée et petit à petit, il crée des yeux. C'est-à-dire qu'il devra rentrer dans son tunnel, faire 200 mètres de manière souterraine, mettre des gros galets pour tenir tout cela bien en place. C'est un véritable tunnel de métro. Vous pouvez à peine le traverser en vous baissant, parfois même presque à plat ventre, mais il y a toujours de l'eau pure à l'intérieur. À travers ces galets, l'eau sourd, l'eau sort petit à petit, et vous arrivez comme cela en zigzag, à créer tout un trajet, et petit à petit, vous arrivez à irriguer toute votre vallée à n'importe quel moment de l'année. Et là, le coton va pousser, le maïs va pousser. Les hommes vont pouvoir vivre. Chaque petite vallée du Pérou est en soi une réussite, non seulement humaine, mais technique incroyable. Les pistes de Nazca, ça n'est rien comparativement aux zigzags de l'eau qui court encore aujourd'hui, qui est nettoyée, ces tunnels qui sont chaque année nettoyés à partir des yeux par tous les paysans de ces vallées. Comme cela en direct, c'est vrai que les idées viennent un peu comme elles doivent venir à un Indien, comme elles viennent dans la tête d'un indigène. Parce que ce que j'essaye, avant de vous présenter une piste de Nazca, avant de voir un rectangle, avant d'imaginer une figure ou un animal dessiné dans cette caillasse, je crois que c'est d'abord le mode de production, c'est la façon de vivre, c'est la société qui a créé ces pistes qui me paraît importante. C'est l'âme de l'Indien qu'il faut d'abord saisir. Alors, maintenant que je vous ai situé ses yeux, alors imaginez, la première fois où j'en ai vu un, je suivais un de mes amis de Nazca qui m'a dit « Est-ce que tu connais bien les réseaux souterrains que nous avons sous nos pieds ?» Je lui dis « Non, absolument pas. » Il me dit « Le grand défaut d'aujourd'hui, c'est que l'hôtel un tel, le grand propriétaire un tel, a mis des pompes a fait un trou, et a été sucer l'eau dans un tunnel. Et ce qui fait que tous ceux qui vivent en dessous n'en ont plus. Les paysans qui habitent à 10 km en dessous n'ont plus rien qui sort du zigzag. Parce qu'en route, quelqu'un l'a volé. Et puis, ces mêmes pompes, tout à coup, permettent d'aller plus loin dans les vallées. Je veux dire par là que, jusque dans les années 50, le niveau s'arrêtait toujours au centimètre près au point de vue irrigation. Dès que vous aviez passé ce pas, vous étiez à nouveau dans le désert parfait. Alors, oublions peut-être cela, mais ma visite des yeux a été fabuleuse. Parce que, quand je me suis trouvé devant les vrais yeux précolombiens, je me suis rendu compte que j'étais déjà sur les pistes de Nazca. Parce que je connaissais les pistes de Nazca. Je les avais déjà parcourues, je les avais déjà survolées. Lorsque j'ai vu pour la première fois un œil d'eau. Un œil d'eau, c'est une spirale. Pour descendre comme cela à 5 ou 10 mètres ou 15 mètres sous terre pour rejoindre le tunnel, parce que certains tunnels se croisent même, hein, il y en a parfois qui créent des réseaux souterrains à différentes hauteurs, eh bien, vous descendez en spirale. C'est-à-dire qu'on a dessiné un chemin qui descend doucement, comme dans un entonnoir jusqu'au fond. Et là, vous avez souvent même des croisements complets. Des croisements qui permettent, ou des Y, qui permettent de récupérer un maximum d'eau et puis ensuite de continuer le cheminement. Or, cette spirale, on la connaît à Nazca. On la voit visuellement, en tout cas par avion. On l'imagine lorsqu'on est à terre, sur les pistes mêmes. Nous irons tout à l'heure, par exemple, découvrir le singe avec Maria Reichet, qui est celle qui connaît et qui connaissait le mieux, parce qu'aujourd'hui, elle a un peu plus de peine à marcher, elle a un peu plus de peine à revoir ce qu'elle a vécu pendant 40 ans. Mais on ira découvrir le singe, sa fameuse petite queue en spirale, pour vous faire comprendre qu'il y a des choses curieuses, qu'il suffira de déduire petit à petit en donnant l'image d'un puzzle qui se forme. Suivre Rosé, le même qui m'avait permis de découvrir les yeux, ces spirales incroyables. Rosé m'avait promis, c'était un soir de pleine lune, de partir à la poursuite des vaqueros. Vous savez ce que c'est qu'un vaquero? C'est un fouilleur clandestin. Il y en a des centaines, il y en a eu des milliers à Nazca, parce qu'il y a des millions de tombes à Nazca. Des tombes qui aujourd'hui ressemblent à des champs de bombardement, parce qu'elles ont toutes été fouillées de manière clandestine. Alors on a vidé le contenu de la tombe, on a laissé éparpiller les os, les crânes, quelques morceaux de tissu qui ne sont pas entiers, beaucoup de coton, beaucoup de ouates de coton, qui justement permettaient d'emballer Parce que vous voyez maintenant, enfin, vous imaginez la chambre ronde ou cette chambre en forme de bouteille où reposait le corps. Elle peut être carrée aussi, d'ailleurs, ça n'est pas très important, mais il y a toujours une issue, il y a toujours une formule qui permet la sortie, ou en tout cas l'idée même de l'évacuation de l'âme, devrais-je dire, parce qu'on est encore dans un problème d'enveloppe. Et bien sûr, ce qu'on comprend, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas que le coton, il n'y a pas que le cocon dont je parlais, mais il y a toutes ces poteries fantastiques de Nazca. Ce sont les plus belles du monde, il y a jusqu'à 14 couleurs différentes, elles ont un glacis absolument merveilleux, et à côté de ça, on retrouve, bon, des choses pour l'au-delà, c'est-à-dire des graines, des choses à manger qui sont parfaitement conservées, il y a des bijoux d'or finement martelés, mais il y a aussi des fuseaux pour filer le coton, il y a des petites poupées miniatures, des peignes, et s'il y a bijoux, s'il y a or, s'il y a poterie, obligatoirement il y a valeur. Donc le fouilleur clandestin va travailler sur ces vestiges afin d'obtenir beaucoup plus d'ailleurs que ce qu'il obtient avec son simple champ, avec son irrigation. Mais si je parle des tombes, si je parle des momies, c'est surtout parce qu'on se rend compte qu'il y a eu une période florissante à Nazca. Il y a eu une période qui débute peut-être à peu près au début de notre ère et qui s'arrête grosso modo dans les années 550. Mais ça continue après. Ça, c'est la grande période Nazca. C'est peut-être la période des pistes de Nazca. C'est en tout cas la période où l'on a construit non seulement l'irrigation, donc ces tunnels dont je parlais tout à l'heure, mais où l'on a gravé, où l'on a dessiné, où l'on a nettoyé, balayé ces pistes sur des centaines et des centaines de kilomètres. Mais je reviens deux secondes aux tombes. Parce que s'il y a eu ces tombes, ensuite, on verra des styles différents et finalement, on verra même l'occupation inca. Et ensuite, on verra naturellement l'invasion espagnole. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que si personne dans les années 40 ne se rappelait de ce qu'était une piste de Nazca, véritablement, là je parle des Indiens, des gens qui auraient dû vivre dans la région, c'est simplement parce qu'au XVIe siècle, la population va tomber d'un seul coup. Les Espagnols eux-mêmes s'étaient rendus compte que sur 30 000 habitants, autour de Nazca, tout à coup, il n'y en a plus que 600 ou 700 après la variole, après les grandes maladies, après la petite vérole, enfin tout ce qui va supprimer pratiquement cette ethnie. Donc supprimer la mémoire aussi, parce qu'on sait que ces pistes n'ont plus été dessinées à partir du 15e ou 16e siècle. Peut-être qu'il y en a encore eu quelques-unes faites par des Incas, puisque aujourd'hui, théoriquement parlant et pratiquement parlant, on commence à en retrouver dans tout le Pérou, en Bolivie, au Chili et même plus haut. Donc l'idée des pistes de Nazca, on commence par là, n'est pas unique. C'est simplement qu'à Nazca, il a moins plu qu'ailleurs et que nous sommes dans un désert, donc elles ont été miraculeusement conservées, c'est tout.
Yeah.
écoutez véritablement le bestiaire de Nazca. Vous entendez? Imasumak chante les animaux de la forêt, les animaux du Pérou. Elle a raison. Elle chante comme un Indien pense. C'est aussi fou que ce qui se passe dans la tête d'un Indien de Nazca lorsqu'il dessine son premier animal, sa première grande figure sur ce désert de Nazca. Allons-y doucement. C'est un désert qui se détruit simplement si vous y marchez. Vous déplacez les cailloux involontairement, car il faut comprendre la matière de Nazca pour parler de Nazca. Il faut l'avoir parcouru avec des raquettes en métal comme Maria Reiche pour ne pas abîmer les pistes de Nazca, et non pas avec une coccinelle ou une voiture quelconque qui marque pour l'éternité ses quatre roues sur le sable et sur la caillasse, parce qu'il suffit d'effleurer cette fantastique table à dessin pour qu'elle soit détruite. Alors, voyons un peu comment elle est faite. D'abord, vous êtes sur une terre qui est assez noirâtre, entre rouge, brun et noir. Ça, c'est ce que vous voyez, avec un horizon qui flotte dans cette chaleur, dans cet air tourmenté par le soleil. Et vous avez des cailloux qui, en principe, ne sont pas plus grands que le poing. En principe, ils sont même plus petits. Ce sont des cailloux assez tranchants, des éclats, en fait. Car avec le chaud, avec le froid de la nuit, au cours des temps, au cours des millions d'années, ces pierres vont éclater toujours plus et créer ainsi une sorte d'espacement, comment dire, une sorte d'ensemble de petits cailloutis qui sont posés sur un fond de gispe. Je m'explique. Dessous, vous avez ce que je pourrais appeler du plâtre de Paris. Vous avez un fond blanc parfait qui fixe, à cause de l'humidité, car il y a quand même de la rosée, à cause des changements climatiques entre nuit et jour, vous arrivez avec le temps à fixer tous ces cailloux au sol. Ils sont véritablement cimentés. Et à partir de là, vous attendez le soleil. Je veux dire par là que ces cailloux, qui au départ étaient d'un beau rouge clair, vont devenir de plus en plus foncés. Et le dessous du caillou va rester pratiquement blanchâtre, si vous voulez, et le dessus va devenir très foncé. Là, vous commencez à me suivre. Ça veut dire qu'après quelques millénaires d'ensoleillement, ces cailloux se sont oxydés. Et puis vous arrivez avec un simple balai. Et vous enlevez ces cailloux. Vous frottez le sol et vous voyez apparaître ce côté crayeux, ce côté très clair. Donc vous avez envie de dessiner, c'est logique. Vous le remarquez même avec votre pas. Je crois que la plus belle image que je retiens du désert de Nazca par avion, c'est un pilote qui est à côté de moi qui me dit « Est-ce que tu connais une image du XVIe siècle ou du XVIIe siècle sur les pistes de Nazca ?» Je dis « Mais enfin, il n'y en a pas. » Il me dit « Si, regarde. » Et j'ai vu des tout petits points blancs au sol. J'étais à peu près à 150 mètres d'altitude. Je dis des petits points blancs parce qu'on a suivi avec l'avion ces petits points blancs qui se retrouvaient tous les 30 ou 40 centimètres. Les pas d'un cheval espagnol qui avait traversé le désert de Nazca. Au 16, 17, 18e, ça n'a aucune importance. Mais pour vous montrer simplement qu'avec le sabot d'un cheval, on déplace suffisamment de sable, on déplace suffisamment de cailloux pour créer un petit rond blanc à la place du sabot, et qu'on peut suivre aujourd'hui encore ces traces qui vont rester encore pour des millénaires s'il ne pleut pas à Nazca. Alors maintenant, vous êtes un Indien et vous vous trouvez en bordure de votre terre agricole qui est maintenant bien irriguée et qui fonctionne. Aucune maison n'est construite dans cette zone-là. Toutes les maisons d'habitation sont au ras de la zone sèche, de la zone désertique, c'est logique. Il y a encore une autre chose. Le plus grand site archéologique de la région, c'est Kawashi, c'est la capitale, avec une pyramide incroyable en adobe qui, petit à petit, s'est écroulée, bien sûr. Et puis, il y a à nouveau des tombes autour. Je parle de Kawashi parce que c'est le seul endroit aux alentours de Nazca où la nappe phréatique est apparente. Je veux dire que vous voyez la rivière, vous savez qu'elle existe. Là, l'eau est obligée d'affleurer. Donc, c'est logique qu'on ait mis le centre cérémoniel, le centre du pouvoir, à côté de ce mot magique qu'est l'eau. À partir de là, vous aurez simplement besoin d'avoir des cimetières, toujours dans la zone la plus sèche qui soit, l'au-delà étant naturellement conservée pour l'éternité, puis vous montez encore un peu plus haut. C'est-à-dire que vous êtes parti du fond de votre vallée, vous avez cette brisure qui est due à la rivière elle-même, et tout à coup vous arrivez sur la pampa. Cette pampa, c'est vraiment une table rase absolue, juste un peu balayée par les quelques inondations qui sont descendues des Andes. On voit que certaines pistes ont même été effacées à cause de quelques inondations qui ont pu avoir lieu au cours des siècles précédents, et même, je vous le disais tout à l'heure, au XXe. Et alors, vous avez envie de dessiner. Vous imaginez maintenant des kilomètres et des kilomètres de vide devant vous. Vous prenez votre balai et vous faites votre première piste. Et quand Maria a découvert, sur le terrain, son premier animal important, ça a été une chose, elle me l'a raconté. Je vous avoue que quand Maria raconte cette expérience des années 40, Aujourd'hui, je vous dis, elle a un peu de peine à parler, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché parce qu'elle vibrait. Elle s'était rendue compte tout à coup, en suivant une piste, que la piste n'était pas droite. Elle a commencé par le bord et tout à coup, elle s'est trouvée prise dans une spirale. Donc, simplement en frottant avec son pied au centre de la piste, elle enlevait ce que je pourrais appeler la poussière des gravillons qui, à cause des tempêtes de sable, avait petit à petit effacé, enlevé ce côté blanchâtre. Et comme ça, à coups de pied, petit à petit, elle a pénétré dans une spirale. Et au centre de la spirale, elle s'est rendue compte que la piste faisait un petit virage et qu'elle ressortait. C'est-à-dire qu'elle refaisait à l'intérieur de la spirale une deuxième spirale et qu'elle se trouvait maintenant évacuée vers l'extérieur. Et qu'ensuite, elle formait tout un corps. Un corps d'abord, une tête, et tout à coup des bras, des mains. Et ensuite, des pieds, non, pas vraiment des pieds, également des mains à quatre doigts. C'était le singe. Elle venait de découvrir le singe, qui est une figure fantastique dans la Pampa. Je l'entends encore chanter par la voix d'Ima Sumac de tout à l'heure. Un singe à Nazca ? Étrange, non ? Qu'il y ait des baleines, qu'il y ait des condors, qu'il y ait des animaux qui viennent de la mer, d'accord ? Mais le singe, il vient de l'Amazone. Tirez votre trait maintenant. Vous verrez que vous créez la plus incroyable piste, celle de l'eau. Amazone, sommet des Andes, neige, rivière, Pacifique. Quand elle a parcouru pour la première fois le singe, elle s'est rendue compte peut-être de la chose qui aujourd'hui me touche. J'ai parlé d'enveloppe tout à l'heure, j'ai parlé de quelque chose qui se refermait sur lui-même. Vous pénétriez, vous sortiez. Ce qu'elle a trouvé, c'est que c'était un dessin sans fin. Ça, vous l'avez déjà compris dans la spirale, puisque je suis rentré et ensuite j'en suis ressorti, en marchant en sens inverse, sans toucher pour autant la première piste. Et cela, c'est un parcours cérémoniel, bien sûr, cultuel. Ça, je crois que c'est très important. Je parle d'une figure, c'est vrai, je ne parle pas d'un grand rectangle. Bon, je pense qu'on en parlera la prochaine fois. Il faudra sûrement, en tout cas, une bonne heure pour expliquer ces siècles de construction, ces siècles de balayage de Nazca. Mais mon singe, ce singe que Maria a retrouvé, ce singe que j'ai vu, enfin, je l'ai sous les yeux simplement parce que c'est le motif qui me plaît. C'est un dessin qui n'est pas vraiment celui du singe qu'on connaît maintenant par avion, mais c'est le premier dessin du singe. Il est dessiné simplement sur une lettre que Maria a envoyée en 1952 en Allemagne à sa sœur qui maintenant s'occupe d'elle, là-bas à Nazca. Eh bien, si je parle du singe, si je parle de cela, c'est parce que je vous ai également parlé de cette forêt d'Amazonie. Et les autres animaux de Nazca, il y en a un tas qui sont dessinés comme cela. Un des plus grands, c'est la grande frégate, cet oiseau incroyable avec le cou qui est tordu comme ça, qui est en ondulation. Il fait 185 mètres de longueur. une chose fantastique qu'on ne voit pratiquement pas du sol. Et pourtant, Maria, en poussant son pied, petit à petit, en formant la spirale, en formant le singe, en prenant des notes à chaque virage, elle a fini par dessiner. Ce que je regarde, ce que j'ai gardé comme seule note pour le singe, c'est ce premier motif de Maria. C'est le singe. Donc, vous remarquez qu'il n'y a pas besoin de partir en avion, en ballon, en extraterrestre interposé ou en fusée interposée pour arriver à observer Nazca, pour sentir et comprendre Nazca. Mais mettez, ça c'est déjà presque un peu ma solution de Nazca, mettez quelques dizaines, quelques centaines de Maria Raiche, la plus indienne des occidentales du Pérou. Mettez Maria sur ces pistes avec une centaine d'accompagnants. Mettez-les en costume, mettez-leur quelques plumes sur la tête, rentrez avec eux dans le singe, mettez un peu de musique, imaginez Ima Sumac de tout à l'heure, imaginez un rythme précolombien. Vous êtes en plein culte, vous allez dessiner mentalement une figure. Sentir ce contraste volontaire. Si j'ai voulu à la fois vous faire entendre le côté précolombien d'Ima Sumac avec le Quechua, si maintenant vous venez d'entendre cette chose très hispanique, c'est qu'entre les deux, il y a un sandwich qui nous rend pratiquement impossible, qui nous rend difficile, en tout cas, la compréhension de Nazca à cause de notre mentalité occidentale. Revenons maintenant aux singes, revenons aux figures. essayons de comprendre déjà cette première solution, car en 1536, si ma mémoire est bonne, un Espagnol, un chroniqueur espagnol, avait passé à Nazca. Je vous ai dit que les gens avaient pratiquement disparu, les premiers colons qui vont s'installer, c'est simplement pour des questions d'agriculture. Eh bien, il avait traversé ce désert et il s'était rendu compte, il avait décrit en une seule phrase que les Indiens avaient l'habitude de suivre certaines pistes qui étaient gravées dans le sable. Et on sent ce côté un peu cérémoniel, on sent cette volonté. C'est une des théories de Nazca que je suis en train de vous déclarer, de vous déclamer maintenant. Mais il en existe d'autres. Et j'aimerais qu'on puisse aussi les comprendre, les connaître, ou en tout cas les deviner. C'est celle de l'astronomie que Maria Reichet a suivie pendant de nombreuses années. C'est celle du Genevois Henri Stirling, qui prétend qu'on a travaillé que le tissage et le textile dans cette région. Et que c'est pour cela que les pistes ont été créées. Il y a celles qui prétendent qu'il a fallu des ballons à air chaud pour observer les pistes. Il y aura celle des extraterrestres, et là je pense surtout à Von Däniken ou à Charroux. Enfin, Nazca a été peut-être l'endroit le plus couru du monde depuis les années 60 et celui qui a permis d'inventer les théories les plus farfelues qui soient. Et pourtant, il y a une chose qui me touche. Je vous parlais de l'âme indienne tout à l'heure. J'ai essayé de vous remettre un peu dans le climat, dans la réalité du moment où ces pistes ont été créées. Et il y a une phrase qui me vient en tête et que j'ai relevée volontairement. C'est une phrase de Sherlock Holmes. Elle est assez curieuse, parce que sous la plume de Conan Doyle, on dit simplement que lorsque vous avez éliminé, lorsque vous avez enlevé, ou comment le traduire, lorsque vous avez éliminé, ça va, lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi impensable que cela puisse paraître, doit être la vérité. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de rechercher la vérité de Nazca. C'est de supprimer toutes les impossibilités, non seulement techniques, mais mentales, pour arriver à l'essentiel. Et l'essentiel, la vérité, c'est peut-être la chose la plus simple. C'est la première à laquelle on pense. Ces Indiens en file indienne qui créer une sorte de cérémonie et qui vont reprendre tous les thèmes qui leur sont propres. Bien sûr, les animaux qui parlent de l'eau, les animaux qui parlent de migration, les animaux qui parlent de la jungle, de ce côté très humide, fantastique. On les retrouve à Nazca. Et puis ces pistes qui partent dans toutes les directions. Pourquoi ? Ça, on l'étudiera. Pourquoi 18 kilomètres balayés ? Pourquoi 18 kilomètres qu'on va balayer pour obtenir simplement une ligne parfaitement droite sur cette pampa? Pourquoi un rectangle incroyable de plusieurs kilomètres carrés totalement vidé en faisant des petits tas réguliers? Ça, ce sont les vrais mystères. Lorsqu'on pénètre sur les pistes, lorsqu'on est au sein d'un de ces rectangles, lorsqu'on survole cela, là je crois que les questions commencent à devenir nombreuses. Mais n'oubliez pas, la tête même de l'Indien, sa production artistique, sa formule religieuse, sa façon de vivre au jour le jour est tellement différente de la nôtre. Vous avez senti Massoumak parler en quechua et vous l'avez senti tout à coup avec son rythme hispanique. Ce sont deux choses totalement différentes et pourtant c'est la même femme. C'est une péruvienne de Cajamarca. Cajamarca qui est l'endroit où l'Inca est tombé de sa chaise à porteur et où Pissarro, celui qui n'avait pas fait d'études, n'a rien compris. De quoi l'Indien a-t-il peur? De quoi l'agriculteur de Nazca a-t-il peur? Il a peur de manquer d'eau, tout simplement. C'est la seule chose qui compte pour son coton, pour ses haricots, pour son maïs. C'est vrai que si par hasard quelqu'un fermait le robinet, la mort s'étendrait partout. Et ceci a eu lieu dans l'histoire. Il y a un cas extrêmement typique. Tout à l'heure, involontairement, en parlant de la chaise à porteur de l'Inca, ah, ça c'est une aventure qu'il faudra que l'on reprenne, ce moment, ce déclic où Pizarro est là, Atahualpa est sur sa chaise et il tient en main tout l'empire. Il est au sommet de la pyramide. Vous l'attrapez par la main, il tombe de la chaise et les Incas ne bronchent plus. C'est un exemple que je reprendrai 10 fois lorsque je parle du Pérou. Mais c'est normal. C'est fantastique d'arrêter une machine simplement en permettant à un homme de changer d'endroit, en déplaçant simplement le soleil de son axe. Parce qu'après tout, ce fils du soleil, c'est le mouvement absolu, c'est la ligne, c'est la piste absolue sur le plan céleste. D'accord, je suis déjà dans l'astronomie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tout à coup, pour cette autre piste sacrée, qui elle est souterraine, cette nappe phréatique qui descend des Indes, si par hasard on la coupait, c'est vrai que tout s'arrêterait. Et cela a eu lieu une fois, en 1460, pour être très précis. C'est justement un Inca. C'est justement un de ces grands Incas qui a compris que c'était la solution pour faire tomber la civilisation la plus forte du moment. Les Incas n'avaient en fait qu'un seul ennemi sur la place, n'avaient qu'un seul ennemi sur la côte en 1460. C'était ceux de l'Empire Chimor, c'était les gens de Chan Chan. C'était quelque chose qui se trouve aujourd'hui à 1000 kilomètres au nord de Lima, autour de la ville de Trujillo. Une citadelle, ou plutôt 9 citadelles, les unes à côté des autres, où lorsque vous êtes à l'intérieur, enfermé dans une enveloppe, vous entendez le bruit de la mer sur la plage. Des citadelles complètement fermées et des systèmes d'irrigation encore plus fous qu'à Nazca. Des barrages, des déviations de rivières, des milliers de kilomètres carrés irrigués, et surtout, une fois de plus, des milliers de kilomètres de tunnels et de constructions pour que l'eau soit là. L'Inca qui, lui, est le possesseur des Andes, qui est celui qui, en fait, a commencé son empire à 4000 mètres d'altitude, va tout à coup raisonner et se dire le seul moyen pour que les gens de Chan Chan, cet empire si puissant, tombe entre nos mains sans broncher, sans lutter, c'est d'arrêter la machine qui les nourrit. Et l'Inca a simplement coupé l'eau. Il a simplement arrêté et dévié l'eau des vallées qui descendaient vers les Chimors, qui descendaient vers les gens de Chan Chan. Et assoiffé, mortellement atteint, l'empire tout entier des Chimors va tomber entre les mains de l'Inca. C'est la fortune absolue. C'était les banques suisses de l'époque. Les Chimous étaient ceux qui savaient, enfin, le Chimou était l'homme, l'orfèvre par excellence, qui savait parler aux larmes du soleil et qui savait naturellement construire sur le plan social un ensemble d'une puissance que l'Inca va simplement reprendre. À partir de 1460, la machine Inca va s'accélérer. Mais vous avez compris qu'avec un simple robinet d'eau, on peut tout à coup faire basculer un empire. Après tout, c'est pour cela qu'on dessinait certainement des pistes, pour obliger les robinets à fonctionner selon le moteur du temps, le moteur d'une civilisation, et de créer ainsi de manière éternelle, chaque année, ce mouvement non seulement céleste, mais également cette eau continue, ce mouvement souterrain qui vous amène systématiquement, comme le sang dans vos veines, la vie jusqu'au bout de vos doigts. Fois, nous reprendrons nos balais et nous retournerons sur les pistes de Nazca. Nous les dessinerons avec les écoliers de Nazca pour vous montrer que c'est très simple de faire une piste. Mais surtout, nous penserons aussi encore un peu plus indien pour essayer, allons-y, de démolir un peu ces théories qui sont beaucoup trop théoriques, ces idées qui sont beaucoup trop occidentales. Nous serons indiens, tout simplement.